Regardons ensemble dans 1 Timothée chapitre 4 et je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Et effectivement, le sujet de notre étude aujourd'hui, c'est le ministère dont nous venons de parler ensemble tout à l'heure. Quel est un véritable ministère béni de Dieu par rapport à ce que les gens appellent le ministère, mais qui est contraire à l'Évangile? Alors, Paul dit à Timothée ici, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors là, il faut aller au verset 8 qu'on a vu la dernière fois pour savoir de quoi il parle, parce qu'il dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, là, c'est la crainte de Dieu. Et avoir cette révérence pour le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Toute la gloire de Dieu réside dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, exerce-toi à la piété. Veut dire exerce-toi à un ministère, exerce-toi à une vie qui cherche à donner toute la gloire à Christ et à Christ seul. Toute la gloire à qui il est, mais aussi à ce qu'il accomplit comme le sauveur et le substitut. Voilà le sens d'exercer, s'exercer à la piété. On a vu la dernière fois car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Quand il parle là de l'exercice corporel, il ne s'agit pas là de jouer au tennis ou bien faire le jogging. Non, il s'agit ici des exercices corporels religieux dont on vient de parler tout à l'heure avant le message, de ceux qui s'exerce dans les jeûnes et dans les prières et dans les dîmes et même dans leur soi-disant évangélisation, sortir pour convertir des âmes. Ce sont des exercices corporels dont Paul parle ici, s'agenouiller, se lever, élever les mains, ouais, ce sont des positions corporelles. Mais en ce qui concerne la piété, ces choses externes n'ont aucune importance en ce qui concerne la vie spirituelle. Et c'est ça qui fait fâcher le monde religieux, ceux qui se sont donnés à ces exercices, à ces activités. Quand on leur dit que tout cela n'a aucune importance devant un Dieu saint, voilà pourquoi ils se fâchent. Parce que c'est une manière d'arracher d'eux, maintenant, ce qui est pour eux une idole. Alors, c'est pourquoi Paul, écrivant à Timothée dans le verset 8, fait cette distinction. Tandis que la piété, et j'aime souvent mettre l'accent sur ces articles définitifs, la piété, il y a une piété que le monde exerce, mais par contre, il y a la piété, tandis que la piété, la véritable, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Bon, quelle est cette promesse de la vie présente? C'est Christ, et c'est son œuvre accomplie pour des pécheurs. Et quelle est cette promesse pour la vie à venir, la vie éternelle? Il n'y a qu'une seule promesse pour la vie éternelle, et ça aussi c'est Christ et son œuvre accomplie pour des pécheurs. Alors, c'est ça que Paul dit à Timothée, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous voyez? Et c'est la deuxième fois que Paul utilise cette expression. Rappelons-nous que dans 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 15, en parlant de la grâce de notre Seigneur et comment cette grâce surabonde avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, il a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde, non pas pour tenter de sauver, mais pour sauver les pécheurs. C'est écrit pour sauver les pécheurs. Voilà le salut que nous annonçons. C'est un salut certain. Et puisque c'est un salut certain, c'est digne d'être reçu. Cela ne veut pas dire que tout le monde recevra ce message de salut. Non. Le monde a un salut qu'il cherche, mais le salut qui vient de Dieu est destiné particulièrement à ceux que le Père a donné à son Fils depuis l'éternité et pour qui Christ est venu dans le monde. C'est ceux que Christ a rachetés par son sang au calvaire et l'œuvre accomplie de Christ à la croix a satisfait la justice de Dieu le Père une fois pour toutes. De quelle sorte que maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux pour qui Christ est mort. Alors, notre salut ne dépend pas de notre foi. La foi est un don de Dieu que Dieu exerce, il donne à ceux pour qui Christ est mort. Mais le salut réside en Christ et dans cette œuvre accomplie. Ça, c'est, notez bien, la parole, une parole certaine, est entièrement digne d'être reçu. C'est toujours digne d'être reçu, même si les hommes contestent. Parce que c'est l'œuvre de Christ qui est toute la satisfaction de Dieu le Père. Alors, c'est cette même expression que Paul utilise encore avec Timothée, dans 1 Timothée 4 et le verset 6. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors, lorsque nous parlons d'un ministère utile et un ministère qui est vraiment pour la gloire de Dieu, c'est ce qui me réconforte en tant que serviteur de Dieu, c'est que, quoique le monde s'oppose à ce message, néanmoins, c'est une parole certaine que nous avons à annoncer. Et nous devons l'annoncer avec assurance, nous devons l'annoncer avec autorité, sachant que c'est ça le message que Dieu bénit. Nous ne sommes pas tirés de droite à gauche pour essayer de plaire aux hommes. Même Paul a dit ça en écrivant aux Galates, que s'il cherchait à plaire aux hommes, il ne pouvait pas être serviteur de Christ. Alors mieux vaut rester isolé de ce monde et séparé de toutes ces activités religieuses et appartenir à Christ, être son serviteur et œuvrer pour sa gloire, par sa grâce, que de nous mélanger et rester dans un milieu où l'Évangile n'est pas prêché et n'est pas apprécié par les auditeurs, parce que ceux qui prêchent, ils ne sont pas là pour l'Évangile, et ils attirent des gens pour haute raison. Alors si tu essaies de te mettre dans ce milieu et les avertir, tu deviendras maintenant leur ennemi. Et c'est pourquoi Dieu nous exhorte de nous sortir, de sortir du milieu d'eux, et que c'est Dieu qui sera notre Dieu. C'est lui qui sera pour les enfants abandonnés du monde, c'est lui qui sera leur père. Et Christ, leur grand frère, ouais, qui sauvegardera chacun des élus, chacun de ceux pour qui Christ est mort. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, alors verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Évidemment, à cette époque, Timothée était assez jeune et c'était Paul qui était le vieux. Je me souviens des années où j'étais jeune, lorsque je suis allé en Afrique pour la première fois, j'avais, je crois, 25 ans, Et quand je constate maintenant que je suis dans les soixantaines d'années, je me demande où le temps a passé. Je ne me sens pas vieux, mais il y a beaucoup qui me regardent, qui me disent, oui, tu es devenu vieux. Et c'est un titre auquel je ne suis pas habitué. Je me sens toujours jeune. Mais peu importe, que personne ne méprise ta jeunesse. Cela veut dire que les gens vont essayer de toujours trouver des raisons de ne pas écouter l'Évangile. Ouais, et le problème n'est pas la jeunesse. Le problème, peut-être qu'ils vont trouver d'autres raisons. C'est le fondement du problème, c'est l'Évangile. C'est qu'ils dédaignent l'Évangile, ils méprisent l'Évangile, ils méprisent le Christ de l'Évangile, à qui est toute la gloire. Et si vous êtes dans une situation où il y a un pasteur qui est au-dessus de vous et que vous servez dans cette organisation, mais quand vous commencez à essayer d'adresser des situations dans l'assemblée qui sont contraires à l'Évangile, le grand pasteur, soi-disant, va commencer à réagir pour dire, mais qui es-tu? De me parler de cette manière, qui es-tu? Est-ce que tu viens de commencer et maintenant tu vas essayer de me corriger dans ces situations? Alors, c'est pourquoi il y avait des anciens religieux parmi les Juifs. Et quand Timothée prêchait ce message qui allait contrairement à leur enseignement, alors il méprisait sa jeunesse. Il disait, mais qui es-tu? Surtout que Timothée n'était pas un juif pur. Il avait des parents, une mère juive, mais un père grec. Et pour cela, il était peut-être aussi méprisé. Comme je disais, les gens vont trouver toutes sortes de raisons de mépriser le messager. Mais à vrai dire, le problème, c'est le message qu'ils annoncent. Mais tout cela ne doit pas nous gêner. Comme Paul a dit à Timothée, mais sois un modèle pour qui? Les fidèles. Je ne peux pas insister assez sur ce point. Nous ne sommes pas dans le ministère pour essayer d'attirer ou soulager les boucs. Il y a des boucs et puis il y a les brebis. Nous sommes dans le ministère pour les brebis, qui sont appelés ici les fidèles. Ce n'est pas qu'ils sont fidèles en eux-mêmes, mais ils sont fidèles en Christ qui est leur fidélité. Lui, Christ, est le témoin fidèle. Et c'est sa substitution. C'est le fait qu'il a pris la place des pécheurs tels que nous sommes, que nous pouvons avoir cette assurance que nous sommes aussi considérés comme fidèles devant Dieu le Père. Ce n'est pas ma fidélité, mais c'est la fidélité de mon représentant. Alors, c'est pour eux que Paul dit à Timothée d'être un modèle. Alors, un modèle de quoi? Comme il dit, un modèle en parole, cela veut dire la manière de parler, en conduite, cela veut dire dans notre marche, nous sommes toujours soumis à Christ et à son obéissance. À notre place, qui est notre justice devant Dieu, en charité, ouais, charité par rapport à la colère. Nous n'avons pas besoin de mépriser les gens si nous sommes des objets de la grâce nous-mêmes. Alors, en foi, ouais, quelle est la véritable foi? Nous sommes un modèle de ce qu'est la véritable foi. Les gens croient que la foi, c'est quelque chose que leur volonté doit produire. Mais nous savons que la foi est un don de Dieu. Et la foi est objectif. Cela veut dire que la foi est basée sur un autre. C'est basé sur Christ et son œuvre accomplie. Alors, nous devons être un modèle en ce qui est la véritable foi et puis en pureté. Pureté dans le sens que le mot signifie, à vrai dire, transparent. Nous ne sommes pas en train de cacher quoi que ce soit. Alors, si quelqu'un nous dit, mais tu te dis chrétien et puis tu agis comme ça, nous ne cherchons pas à nous défendre ou bien à justifier notre péché, mais nous les remercions et nous disons, oui, c'est bien que tu fais cette remarque parce que, à vrai dire, je suis un pécheur comme tout autre. Et j'ai tant besoin du sang de Christ à mon égard que n'importe qui. Ouais, ça, c'est la pureté. Cela veut dire la transparence. On ne cache pas ce que nous sommes. Mais en même temps, nous déclarons qui est notre justice. Nous déclarons à un monde de pécheurs quelle est notre assurance du salut. Ce n'est pas une décision que nous avons prise, ce n'est pas une profession, ça ne provient pas de nous. Notre assurance, notre profession, c'est une personne, c'est Christ. Et Christ crucifié. Alors, ça c'est la manière d'être un modèle de la pureté, d'être qui nous sommes, sachant que nous sommes toujours des pécheurs, mais en même temps, cherchant, par la grâce de Dieu, à donner toute la gloire à Christ. Alors, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne. Alors voilà, maintenant nous rentrons dans le cœur de ce texte et ce message concernant un ministère utile, un ministère qui est véritablement à la gloire de Christ seul. Comment est-ce qu'on peut définir un tel ministère? C'est décrit ici dans le verset 13, et il y a trois choses. Alors, puisque nous sommes ici pour apprendre ce qui est nécessaire pour le ministère dans les milieux où Dieu nous a placés, donc nous devons faire attention ici, parce qu'ici, il y a les trois choses qui sont nécessaires pour un ministère utile et béni de Dieu. Voilà, la première, c'est quoi? Applique-toi à la lecture. Deuxièmement, applique-toi à l'exhortation. Et troisièmement, applique-toi à l'enseignement. Donc, voyons ces trois. D'abord, la lecture. De quelle lecture est-ce qu'il parle? Il parle là de la lecture de la Bible, bien sûr, mais non seulement en privé, mais en public. Parce qu'il faut dire qu'il adresse cette parole à Timothée en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'une assemblée. Alors, qu'est-ce qui doit être primordial dans nos assemblées où Dieu nous a placés? C'est la lecture de la parole. Je dois dire que ça, ce n'est pas l'habitude des assemblées où la grâce de Dieu n'est pas prêchée. Et malheureusement, je dois dire que ce n'est pas l'habitude dans beaucoup de milieux où ils prétendent prêcher la grâce. C'est l'importance qui est placée sur la lecture de la parole. L'accent est souvent sur la musique, l'accent est souvent sur les commentaires ou les témoignages des hommes. On donne la place à toutes ces choses, mais non pas à la lecture de la parole. C'est un point sur lequel Dieu m'a convaincu il y a bien d'années. Ce qui fait que depuis que je suis venu ici à Shreveport, nos temps de réunion, la plupart du temps est passé dans la lecture de la parole. Je commence notre temps de culte avec la lecture de la parole. Depuis que je suis venu ici, la première lecture que nous faisons, c'est dans l'Ancien Testament. Et au départ, je choisissais différents passages dans l'Ancien Testament, parce que je voulais que les gens soient exposés à la lecture de la parole, non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. Alors, nous débutons notre culte avec une lecture dans l'Ancien Testament. Depuis un certain temps, j'ai mis l'accent sur les psaumes. Alors, nous sommes maintenant, ça fait 20 ans que je suis à Shreveport, mais nous sommes en train de lire pour la quatrième fois les psaumes en public. Alors, chaque culte, je débute avec un psaume. Et nous faisons la lecture de tout le chapitre. Je demande à un des hommes de notre assemblée de faire la lecture. C'est comme ça qu'on commence. Même avant de chanter, même avant de prier, l'important c'est d'écouter la parole. Alors, nous lisons le chapitre entièrement. Combien de fois il y a des gens qui aiment citer un verset ici, ou bien citer un verset là, ou même une partie d'un verset, et non pas le verset complet. Il faut que nous ayons l'habitude de faire la lecture pour voir la parole dans son contexte et habituer nos gens à s'asseoir tranquillement et écouter. Ouais, même ici, nous devons éviter les traditions d'hommes parce que je sais qu'il y a certains, encore, exercices corporels. On demande aux gens de se lever pour la lecture et puis celui qui dirige lit une partie et puis les gens répondent. Ouais, ce sont des exercices corporels. Pour moi, ce temps de lecture de la parole de Dieu, ça doit être un temps de silence. Et j'encourage les gens à être là à temps et s'asseoir tranquillement, même avant le culte, de s'asseoir et ouvrir leur Bible et demander au Seigneur d'arroser le cœur avec sa parole, d'être eux-mêmes dans la lecture avant le culte. Je sais que dans une société peut-être où beaucoup n'ont pas de Bible ou bien ne savent pas lire, on ne peut pas exiger cela, mais quand même c'est une préparation du cœur que lorsque vous vous levez et vous dites c'est le moment de commencer le culte, quelle est la meilleure façon de commencer un culte? C'est à l'écoute. De dire aux gens, nous allons commencer par la lecture de la parole. Il faut dire que au temps de Timothée, c'était vraiment important parce que, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas d'imprimante, donc imprimerie. Donc, les copies des Écritures étaient rares. Et souvent, le seul endroit où quelqu'un pouvait écouter la parole devait être dans ces assemblées où il y avait des copies des Écritures. Alors imaginez si vous êtes affamé et vous avez besoin d'écouter la parole et vous arrivez dans l'assemblée, mais la lecture de la parole se faisait très peu. Alors vous allez rentrer affamé, vous allez sortir affamé. Vous aurez passé le temps à écouter la parole des hommes, mais non pas la parole de Dieu. Alors, cette lecture de la parole, jusqu'à aujourd'hui, est primordiale. Et je ne peux que vous encourager à mettre l'accent dessus. Nous n'avons pas de chants spéciaux. Nous ne donnons pas beaucoup de temps, même à la chanson. Ce n'est pas que la chanter n'est pas important, mais la chanson, Les chants, les cantiques, passer le temps à chanter doit être soumis en importance à la lecture de la parole. Notez bien dans ce verset, ça ne mentionne même pas les cantiques. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et l'enseignement. Parce que c'est la manière que Dieu a ordonné que sa parole soit communiquée et que ses brebis, encore dans le verset 12, soit un modèle pour les fidèles. Les boucs vont rentrer, ils vont vouloir tout ce qui se passe dans ces autres milieux, mais s'ils ne peuvent pas s'asseoir tranquillement, écouter la parole, alors mieux vaut qu'ils s'en aillent. Mieux vaut qu'ils aillent dans ces milieux-là et avoir ce qu'ils cherchent. Mais là où nous sommes, quand les gens viennent nous visiter et puis ils rentrent chez eux, s'il n'y a pas d'autre chose qui les impressionne, que ce soit ce point-ci, que là où ils sont, vraiment, ils mettent l'accent sur la lecture de la parole, écouter la parole. Je ne peux pas imaginer quelque chose de mieux. Les gens s'en vont
il ne parle pas du pasteur, il ne parle pas du message du pasteur, mais il parle de la parole de Dieu. Que là, si tu vas là, c'est la parole qui règne. Et il faut que ça soit comme ça. Comme je disais, la manière que le Seigneur m'a dirigé, nous avons une lecture pour débuter le culte. C'est dans l'Ancien Testament. Et puis, nous chantons un chant. Et puis, immédiatement, je demande à un autre homme de notre assemblée à faire la lecture. Et souvent, là, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que je voudrais que nous soyons exposés à tout, toute la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est une seule parole. Quand c'est écrit là, que c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La parole est unie. Je sais que c'est divisé en deux parties, mais c'est toujours la parole de Dieu, inspirée. Alors nous avons besoin de l'entendre. Et puis, nous chantons, après cela, un autre cantique. Et là, maintenant, c'est le moment pour moi de me lever et prêcher. Et quelle est la première chose que je fais? Je demande aux gens d'ouvrir leur Bible et de suivre avec moi. Et j'ai fait encore une troisième lecture. Là, cette lecture, c'est le contenu du message que j'ai annoncé. Mais je voudrais que l'accent soit sur la parole et non pas sur même mes commentaires de la parole. On doit toujours prier comme Jean-Baptiste a dit, il faut que Christ soit élevé et nous soyons diminués. À la fin du message, je ne voudrais pas que les gens soient en train de parler de mes paroles, mais plutôt de la parole de Dieu. Ouais, c'est ce qui est nécessaire, parce que c'est ce que Dieu bénit pour la conversion des âmes, c'est la parole. Je dois dire que si vous faites une évaluation, même de votre propre vie spirituelle, est-ce que c'est une parole d'un homme qui vous a convaincu de la nécessité d'être en Christ et renoncer à soi-même, ou bien est-ce que c'est la parole de Dieu? J'espère que vous allez répondre c'est la parole de Dieu, parce que autrement c'est une fausse profession. Si on doit baser notre foi ou bien notre expérience, notre salut sur les dires d'un homme, pour dire que c'est quand celui-là a prêché que vraiment j'étais impressionné, et voilà, je me suis donné à Christ, je dirais que c'est une fausse profession. Ésaïe était convaincu dans son esprit, dans Ésaïe 6, par la parole de Dieu, cette parole adressée à lui. Dieu lui a donné une révélation de Christ, il a vu Christ élevé sur son trône, et c'est là qu'il a crié « Malheur à moi !» Alors, voilà l'importance, la lecture de la parole, la lecture publique. Oui, en privé aussi. On ne doit pas lire la Bible simplement pour faire des préparations, pour savoir ce que nous allons annoncer aux hommes les dimanches ou bien les mercredis. Non, on doit lire la parole, nos âmes doivent être arrosées de cette parole aussi, dans le privé, saturées de la parole avant que nous ouvrons nos bouches pour annoncer ou prêcher aux autres. On ne doit pas faire ça d'une manière mécanique ou bien d'une manière stricte, parce que je dois prêcher, alors je vais m'asseoir, regarder la parole et puis rédiger un message. Non, nous devons prêcher aux autres de ce que Dieu lui-même nous a béni par notre lecture de la parole. Notre assemblée ici, quand c'est le moment de commencer le culte, souvent ils arrivent ici au lieu du culte et je suis en train de faire mes dernières préparations, et ils me taquinent parfois et disent: oh, donc vous n'avez pas fait la préparation avant et maintenant vous êtes pressé à finir. Et je leur dis non, pendant la semaine je réfléchis, je lis la parole, mais c'est comme la préparation d'une nourriture. On ne prépare ça d'avance, on prépare ça pour que ça soit bien chaud quand les invités arrivent, ils vont vous voir toujours dans la cuisine en train de faire les dernières préparations. On ne veut pas que le repas soit froid. Et souvent, c'est comme ça pour moi. Je réfléchis, je lis personnellement cette parole, je fais la lecture, j'étudie, je médite pendant la semaine, et puis le jour que je dois l'annoncer, c'est là alors que je fais les dernières préparations. Et c'est ça que le Seigneur bénit, cette pratique, cette méthode. Il faut que nous soyons immersés nous-mêmes dans la parole. Alors ça, c'est la première chose. Applique-toi à la lecture. Il y a beaucoup dans ce monde, ce mot « applique-toi », parce qu'il y a beaucoup de distractions dans le ministère. Les gens imaginent que si tu es pasteur, donc tu dois venir chez eux, tu dois les visiter, s'ils sont malades, tu dois aller là. Il y a toutes sortes de distractions dans le ministère. Mais pour moi, personnellement, c'est pourquoi il y a une assemblée. La Bible dit que les membres de l'assemblée doivent s'occuper des membres. Et s'il y en a qui sont malades, ce n'est pas seulement le rôle du pasteur de courir et s'occuper de cela. Il y a des membres de la famille de l'assemblée qui peuvent faire cela. Mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est prêcher l'évangile. Alors si je ne m'applique pas à cette lecture de la parole en privé, mais aussi en public, et je me laisse distraire par toutes sortes d'activités, quoique bonnes activités peut-être, alors je ne fais pas le travail auquel le Seigneur m'a appelé. Donc applique-toi à la lecture. Et deuxièmement, à l'exhortation. Nous ne sommes pas là simplement pour se lever et renseigner les gens en ce qui concerne l'évangile. Vous voyez, on peut écouter des discours sur l'évangile. Il y en a beaucoup qui sont présentés d'une manière académique. Mais le mot exhortation, c'est de prêcher cette parole, c'est d'agir d'une manière d'urgence, comme s'il y a des malades qui ont besoin, des malades spirituels qui ont besoin du médecin. Alors, le médecin, c'est Christ, les malades, c'est nous. Vous savez vous-même que quand vous êtes malade, si vous allez chez un médecin, vous ne voulez pas que le médecin vous explique le médicament et comment c'est produit et tous les éléments du médicament. Vous voulez l'application du médicament parce que vous êtes malade. Vous avez besoin de quelque chose qui va soigner cette fièvre. Oui. Alors ça, c'est le mot exhortation. C'est l'application de la parole de Dieu. Et c'est de cette manière que nous devons prêcher, ayant devant nous des malades, nous-mêmes étant des malades. Je dis souvent, je ne suis qu'un lépreux en train d'annoncer aux autres lépreux où se trouve le remède. Ouais, ça, c'est l'exhortation. Chaque fois qu'on prêche, on prêche d'une manière d'urgence, parce que c'est Dieu qui a amené chacun qui est là. Il ne faut pas nous occuper de ceux qui ne sont pas là. Imaginez, mais où est-elle, où est-elle? Non. Même s'il n'y a que deux ou trois devant nous, nous devons traiter ces deux ou trois, nous devons les soigner avec le remède qui est Christ, comme si la chambre ou bien le lieu du culte était rempli. C'est ce que je trouve vraiment intéressant parfois, parce que j'annonce l'évangile, et quand je prêche, même s'il n'y a que deux ou trois présents, je prêche comme s'il y a 1000 personnes devant moi, avec cette même urgence que je suis en train de vous parler maintenant. Peu importe le nombre, s'il y a deux ou trois réunis en son nom, Christ a dit, je suis parmi vous. Alors, c'est ça l'exhortation. Nous devons, à travers ce que l'évangile ordonne. Quand je dis regarde à Christ, c'est l'exhortation. Quand je dis de ne pas regarder vers le monde ou bien d'être distrait par ce que fait le monde religieux, ça c'est une exhortation. C'est l'application pure de l'évangile en prêchant d'une manière à ce que les yeux des pécheurs soient sur Christ et non pas sur nous. Et puis, troisièmement, il dit ici, et à l'enseignement. Il n'y a pas réellement de différence entre prédication et enseignement. Je sais que certains font cette distinction, mais je dois dire que chaque prédication que Dieu nous donne à donner et préparer, c'est un enseignement. Ça doit être un enseignement. C'est comme je fais maintenant. Je suis en train de, en réalité, vous parler sans notes, parce que je veux que nos regards soient sur cette parole. Mais la manière d'enseigner cette parole, c'est verset par verset, mot par mot, et priant que à travers cette étude, nos yeux soient sur Christ, parce que c'est lui qui est le sujet de toute cette parole. Je ne suis pas quelqu'un et je ne vous encourage pas à être un prédicateur du sujet, comme si la Bible était l'index sur des sujets, une concordance de sujets. Non, il faut prendre un livre de la Bible, commencer au début. Est-ce que c'est pas comme ça que nous lisons un livre? Je ne saute pas. Si je prends un livre pour lire, je ne suis pas en train de lire parfois au début, et puis parfois au milieu, et puis parfois à la fin, et puis je reviens. Non, c'est ça qui mélange l'esprit des gens. Mais des prédicateurs qui prêchent de cette manière, c'est que ils ont déjà un point de vue sur lequel ils veulent mettre l'accent. Alors, ils assujettent la parole à leurs opinions pour essayer d'utiliser la parole pour prouver leur pratique. Le sujet de la Bible n'est pas les jeunes. Le sujet de la Bible n'est pas comment prier. Le sujet de la Bible n'est pas les dîmes. Mais voilà les sujets que les prédicateurs aiment prêcher parce qu'ils ont besoin d'influencer les gens à soutenir leur ministère. Mais ça, ce n'est pas le ministère de Dieu. Nous sommes comme les héros dans l'ancien temps que le roi envoyait dans les villages pour faire des annonces. Et ces héros-là ne devaient pas commenter aux gens au sujet de la parole du roi. Non, ils sonnaient la trompette et puis, lorsque les gens étaient rassemblés, ils annonçaient, ils faisaient la lecture. Ils avaient les paroles exactes devant eux que le roi les envoyait annoncer et c'est ça qu'ils annoncent, sans dévier. Et une fois fini, bon, ils s'en allaient au prochain village pour faire la même chose. Ça, c'était un héros fidèle qui annonçait la parole du roi. Et c'est de cette manière que nous devons aussi agir à la gloire de Christ seul. Depuis que je suis venu à Shreveport, ça c'est ma 20e année ici, mais nous avons déjà traversé le Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse 2 fois. Et maintenant, je recommence encore cette fois-ci dans l'Évangile selon Luc. Mais mon intention, c'est encore de prêcher verset par verset à travers le Nouveau Testament. Il y en a ici qui m'ont suivi dès le départ, qui me disent que même si c'est la 3e fois que nous traversons ces passages, que c'est comme si c'est nouveau. Mais la raison est que nous mûrissons. Je ne suis pas ce que j'étais il y a 20 ans. Et je remercie le Seigneur qui continue à m'enseigner. Je veux être un étudiant à vie. On ne peut jamais sortir de cette école de Christ. J'ai besoin, autant que les auditeurs, j'ai besoin de cette parole. Alors c'est pourquoi je fais la lecture, je lis. Et ce n'est pas seulement que c'est ma responsabilité d'exhorter les autres, mais je reçois aussi les exhortations de la part des frères qui me disent, il ne faut pas te décourager. Je remercie le Seigneur pour les brebis qui s'approchent de moi, parce que moi, je suis aussi une brebis du Seigneur, et que nous parlions ensemble, nous nous exhortons de regarder vers Christ. Ça, c'est notre besoin quotidien, mais c'est à travers l'enseignement. Alors, je vous encourage, si telle n'est pas votre pratique jusque-là, de commencer. Vous pouvez commencer même dans votre foyer, si vous n'avez pas de lieu de culte. Donc, chacun de nous, nous devons être le pasteur dans notre foyer. Nous devons rassembler notre famille et faire la même chose. La lecture, l'exhortation, l'enseignement à travers la Bible. L'Ancien Testament est un peu plus difficile de traverser depuis 20 ans. Ici à Shreveport, j'ai commencé dans le livre de Genèse et je suis maintenant, je fais ça les mercredis soirs, chapitre par chapitre, verset par verset, et nous sommes maintenant dans le livre de 1 Samuel. Parfois j'ai suspendu un certain livre à la fin et j'ai sauté, j'ai prêché dans le livre de Proverbes, Ecclésiaste, Cantique de Cantique, Ésaïe. Alors j'ai déjà prêché dans ces livres là, mais il y a beaucoup plus de livres dans l'Ancien Testament que le Nouveau, et même si vous prenez votre Bible pour regarder, il y a plus de contenu dans l'Ancien Testament que le Nouveau, donc ça prend un peu plus de temps. Mais si le Seigneur me donne longue vie, je taquine mon assemblée, je leur dis que le Seigneur, si son désir c'est pour moi de finir l'Ancien Testament, donc je dois vivre jusqu'à 100 ans. Mais même cela, c'est selon le dessein de Dieu. On ne sait pas, c'est peut-être maintenant, je ne sais pas. Peut-être ça, aujourd'hui serait le dernier message que je vais annoncer, et puis le Seigneur me prendra. Nous ne sommes pas au contrôle de nos vies, c'est Dieu qui détermine. Mais aussi longtemps qu'il nous donne la respiration, je dois faire une chose, et ça c'est de prêcher la parole, enseigner la parole, exhorter, faire la lecture. C'est tout. On ne voit pas d'autres points donnés ici que ces trois dans le verset 13. Lecture, l'exhortation, l'enseignement. Alors, il dit à Timothée dans le verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Quel est ce don qui est en lui? C'est Christ. Christ en nous, qui est notre espoir, notre assurance de gloire. Et c'est écrit ici, « Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Il ne veut pas dire là que les anciens, en imposant les mains sur lui, alors c'est par là que Christ a été révélé en lui et entré en lui. Mais cette imposition des mains de l'assemblée des anciens et la prophétie donnée était en ce qui concerne le ministère. Cela veut dire ils ont reconnu que c'était Dieu qui était en train de le séparer au ministère pour servir le Seigneur dans la prédication de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il est dans le ministère. Ce n'est pas l'imposition des mains qui est important. C'est une manière de parler. Je me souviens quand j'étais en Afrique, surtout parmi les anciens, il y avait certaines pratiques quand tu es avec eux, et ces anciens voulaient mettre leur bénédiction sur toi. Je me souviens d'autres parfois prenaient mes mains et les élevaient au-dessus de ma tête pour donner une bénédiction. C'était une manière pour eux de remercier, me remercier pour la prédication, le ministère que j'exerçais dans un milieu, l'imposition des mains dans ces milieux, dans le Moyen-Orient, c'est une manière de dire recevoir la bénédiction des anciens. Je crois que ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent et qui se sont séparés eux-mêmes pour le ministère. Ils ont commencé leur propre ministère et maintenant ils cherchent la bénédiction. Mais ici, Paul rappelle à Timothée que s'il prêche l'Évangile, s'il sert dans le ministère de l'Évangile, ce n'est pas une décision prise de lui-même, que c'est à cause de Christ en lui. Ça, c'est le don qui est en toi, mais reconnu, quand c'est écrit « donné par prophétie », ça parle là que d'autres reconnaissent cette bénédiction du Seigneur en toi. Et je dois dire que, quoique le monde rejettera nos ministères, parce que ce n'est pas conforme à leurs pratiques, leurs traditions, néanmoins, ceux qui sont véritablement du Seigneur vont reconnaître ce ministère et bénir le Seigneur pour cela. Et vous voyez dans le verset 15, Paul dit simplement, « Occupe-toi de ces choses et donne-toi entier à elles. » Alors, s'il y a d'autres activités auxquelles vous êtes présentement donné, renoncez à toute autre activité que ces trois qui sont mentionnées là. La lecture, l'exhortation et l'enseignement simple et pur de cet évangile à travers la Bible. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ouais, l'exhortation que Paul est en train de donner à Timothée. Persévère dans ces choses. Et nous savons que c'est Dieu qui donne cette persévérance. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Cela ne veut pas dire le salut éternel. Le salut éternel ne dépend pas de nos œuvres, mais de l'œuvre de Christ. Mais le mot sauvera ici veut dire tu seras sauvegardé de toutes sortes de distractions et de déviations en suivant ces choses. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans quel sens? En les orientant toujours vers Christ et Christ crucifié. Alors, tu leur donnes tout ce qui est nécessaire pour cette vie et la vie à venir. Alors, c'était les quelques commentaires que le Seigneur a mis sur mon cœur d'annoncer aujourd'hui. Et nous allons prier d'abord pour remercier le Seigneur pour cette parole. Et s'il y a des commentaires de votre part, nous pouvons en parler. Et prions d'abord. Seigneur, je te remercie pour ces moments dans ta parole. Merci pour chacun présent qui est en train de suivre, écouter. Et je te remercie que vraiment c'est un privilège, non seulement de faire la lecture, mais d'être exhorté nous-mêmes en lisant cette parole et de suivre ses enseignements. C'est la manière que tu as ordonnée pour glorifier ton Fils, parce que c'est lui qui est le sujet de toute la Bible, mais aussi de fortifier nos cœurs. Combien nous avons besoin de ta grâce, moment par moment, jour après jour, de nous garder et de nous bénir dans ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son saint nom que je te prie. Amen.
Amen.
Oui, quelques paroles, commentaires, exhortations. Nous avons fait la lecture. C'est maintenant l'exhortation.
D'accord. Bien. Ce message-là est vraiment bienvenu. Ce qui est là, c'est que tout ce que nous devons faire réellement, nous devons prendre notre force vraiment en Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui est vraiment notre aide et notre appui dans tout ce que nous faisons. Je vais vous parler quand même d'abord sur l'exercice corporel là, les chansons et les danses dans l'église. Alors je vais essayer de parler un peu de ça. Alors concernant les exercices corporelle, beaucoup pensent que ben, seulement c'est les jeux, les ballons, le football, hein, l'handball, beaucoup de jeux physiques pour maintenir l'harmonie du corps. Beaucoup pensent et ils attachent à cela une importance capitale même. Je me rappelle que quand j'étais à l'église baptiste, nous avons fondé une association, on a mis sur pied une équipe chrétienne et de l'église baptiste, alors qui devait prêcher l'évangile. Alors j'ai voulu choisir la bonne part quand j'étais nommé comme le pasteur de cette église. Alors je visais en cela une évangélisation, parce que nous en avions des traités, beaucoup de livres qu'on distribuait et qu'on priait et on tenait le message. C'était pour moi une occasion réellement de dispenser le message, de donner les traités, afin que les gens puissent connaître le Christ. Mais j'ai vu que ça paraissait vraiment autrement. Parce que des fois, si on était réellement battu, je vous dis que les frères chrétiens même s'effarouchaient et on n'avait même plus le temps d'écouter la parole de Dieu et on finissait par parole, par des palabres. Je me rappelle une fois, on s'est rendu dans un village, fallait jouer au ballon, l'équipe baptiste. La ville là-bas pour les jouer au ballon. Ces gens-là, c'était des grands pétitionneurs. Je vous dis en réalité. Ils nous ont fait sortir des abeilles pour nous poursuivre. Des abeilles. Et je vous dis que moi j'étais le pasteur. Chacun de nous s'est cherché, moi je me suis cherché même avec ma Bible. Ces gens-là ont commencé à dire, vous dites vous êtes des chrétiens, vous connaissez Dieu, pourquoi vous n'avez pas prié pour éviter cela? Alors le Christ est revenu. Alors vraiment cela est beaucoup. Parce que je voyais que la gloire n'était plus donnée à Christ qu'on voulait, c'était changé paradoxalement. Alors c'est pour cela que les exercices corporels alors servent vraiment à peu de choses. Ce qui retient, c'est la parole de Dieu, surtout les exercices spirituels, c'est ce qui retient. Concernant aussi les chansons, je vais dire, je vais être bref, concernant les chansons et les danses à l'église, en réalité, je vous dis que il y a des choses pour aller à l'église uniquement pour bien vivre. Réellement, Christ n'est pas dans le cœur. C'est pour cela, après ces chants et ces danses de prier, je commence ma prière. Je dis, Seigneur, fasse réellement que Christ soit dans le cœur de tous ceux qui sont en train de danser avec enthousiasme, avec en passe. Cela n'est pas l'essentiel. C'est toi qui nides dans le cœur de ces gens, afin qu'ils sachent que tu es le Seigneur. Et c'est pour toi qu'on doit danser. Parce que beaucoup dansent pour le monde, pour la foi charnelle. Alors, concernant les chansons, c'est ce que je voudrais vraiment dit. Alors, j'ai dit que Dieu nous écoute de plusieurs manières. Moi, je suis dans une maison, là où je vais construire un hangar. Je suis dans une maison il y a 23 ans. J'ai dit 23 ans, ma fille est née là-bas. Après mon mariage, exactement, c'est cette maison. Je vous dis que le premier fils de cette maison, c'était un enseignant, un professeur qui s'appelle Mme. Mais avec mon frère, ce dernier-là a pu connaître réellement le Seigneur Jésus-Christ. Et il est malheureusement, il nous a quittés. Alors, et sa femme a continué à persévérer, sa femme travaille à l'hôpital Baptiste de Lille. Le propriétaire de cette maison, par conscience, témoignage, m'a permis de construire un mandat. Pourtant, c'est une femme ici, à quelqu'un qui est tout le monde la connaît, son mari est mort en laissant beaucoup de maisons. Elle est vraiment très, très farouche. Elle se fatigue et puis elle veut vraiment l'argent. Mais Dieu a travaillé son cœur pour que le Dieu lui permette de faire le hangar dans la maison. Tout cela pour dire que réellement la piété, notre marche en Jésus-Christ, vraiment compte beaucoup. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse réellement pour ce message. Merci.
Amen. Oui, c'est Amen. Dieu qui Amen. Est souverain en toutes choses. Et en ce qui concerne les chants, la chanson, ce n'est pas que c'est interdit, parce que même quand on dit les psaumes, il faut dire que c'était des cantiques que l'Église chantait à l'époque. Mais nous sommes toujours réglés par la parole de Dieu. Et pour moi, le verset clé en ce qui concerne les chants et les chansons, c'est dans Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Même dans les cantiques, ça doit être une exhortation. Un enseignement, ça doit être centré sur Christ, parce que Colossiens 3, 16, Paul dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous.
Donc ça fait partie du ministère, même dans les cantiques que nous chantons. Il y a beaucoup de cantiques que nous ne devons pas chanter. C'est ce qui m'a poussé quand j'étais en Afrique. Je ne sais pas si c'est utilisé toujours, mais on a imprimé, on a édité un cantique de grâce, une chanson de grâce. Et la raison, c'était que les cantiques que nous chantons doivent être conformes à l'évangile tel que c'est révélé dans les Écritures. Et c'est ce que Paul dit. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, si le cantique, et c'est ça qui me trouble, parce que les gens aiment les rythmes, ils aiment la danse, et souvent le prédicateur ou bien le dirigeant va prendre une seule phrase et répéter cette phrase, et tout le monde chante la même phrase 1000 fois, mais ce n'est pas, il n'y a pas d'enseignement en ce qui est chanté. On doit être instruit même à travers nos cantiques. Et si vous voulez un bon exemple, il faut lire les psaumes. Les psaumes sont les cantiques inspirés de Dieu et c'est plein de doctrines. C'est plein d'enseignements de Christ. Alors, nous devons mettre l'accent là-dessus et je dois dire que là où l'évangile est reçu, la manière de diriger les cultes serait beaucoup plus modérée, parce que on n'est pas là pour faire une production, mais on est là pour adorer Christ à travers les cantiques, à travers la lecture de la Bible et aussi à travers surtout la prédication de l'évangile et dans nos prières. Si quelqu'un ne peut pas nous diriger à Christ dans la prière sans mettre l'accent sur sa manière de prier, donc il faut pas demander à celui-là de diriger l'assemblée dans la prière. Mieux vaut qu'il se taise, ouais, que de se. Il y en a qui aiment prier devant les assemblées parce que c'est une production, mais ça ce n'est pas le but. Donc merci frère pour ces remarques là, c'est bien.
Ah oui, merci. Je voudrais effectivement grâce à Dieu pour la clarté avec laquelle le pasteur Ken avec la parole, ce passage de l'écriture. Et nous sommes en train de voir là en réalité qu'il y a certains mots qui dans le fond ne sont parfois mal compris ou mal appliqués, mais l'apôtre Paul est avec l'enseignement que nous venons de suivre à montrer et le sens. Il s'agit de la persévérance et de la piété qui est utile à tout et à la crainte de Dieu et la persévérance. Vous voyez, persévérance, piété, ces deux mots-là n'ont pas de sens si l'on ne se situe pas dans à quoi réellement on est attaché quand on chante dans l'église, quand on prêche, quand on enseigne, quand on fait tout, à quoi est-ce qu'on est réellement attaché en soi-même dans ces activités à l'extérieur. C'est un peu ce qu'on appelle l'exercice corporel, parce que celui qui chante, par exemple, celui qui prie, celui qui va à l'église, celui qui lit, celui qui enseigne, celui qui prêche, tout dépend de ce à quoi il est réellement attaché dans la chanson ou dans ces exercices-là. Et ça doit être dit. Et on parle souvent de persévérance. Mais on n'est pas persévérant simplement. On doit être persévérant dans quelque chose. Et c'est là où ce passage nous situe réellement dans les domaines dans lesquels le véritable ministère, le véritable croyant persévère. La persévérance suppose trois domaines, c'est-à-dire le but et la motivation, le mobile de tout ce que nous faisons ou enseignons autour de l'évangile et même dans l'évangile. Quand il s'agit du Dieu de la parole, et non de simplement de la parole simplement, ou de la parole de Dieu simplement est le mobile pour lequel nous travaillons et combattons est très important dans notre persévérance. Parce que tout le monde travaille, tout le monde combat et il persévère même. Mais par rapport à quoi?
Voilà.
Est-ce par rapport à Dieu? Est-ce par rapport au but pour lequel Dieu nous a appelés? Est-ce par rapport à l'espérance même qui se trouve dans l'évangile? Et l'apôtre Paul est clair ici, il dit, nous travaillons verset 10 en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Donc toute prédication, tout ministère, et même l'écoute de l'évangile, les gens pensent que quand on s'attache seulement à l'évangile, là, on est démotivé, on ne fait rien ou bien on fait mal. Mais c'est l'évangile qui nous donne la vraie motivation, le vrai but et le vrai module de tout ce que nous faisons par rapport à Dieu dans l'Église. Et ça demande effectivement un vrai travail, un vrai combat. Et c'est là où se situe réellement la persévérance du croyant. Il met son espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement croyants. C'est Dieu qui nous préserve. C'est lorsque nous sommes attachés et croyons Dieu que nous sommes préservés de toute déviation. Comme Ken vient de dire, en réalité, c'est en veillant sur toi-même et sur ton enseignement et en persévérant dans ces choses que tu te sauveras toi-même, tu te seras préservé de toute déviation
voilà.
Et tu préserveras ceux qui t'écoutent de toute autre déviation.
Amen.
Donc quand on parle de persévérance, nous avons besoin non seulement de travailler, de persévérer à travailler, de combattre, de persévérer à combattre, de prêcher, à prêcher l'évangile, mais nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement et de nous assurer que nous mettons entièrement notre espérance dans le Dieu vivant.
Amen.
Et que le but pour lequel il nous a appelés, nous sommes en train de poursuivre. Et pour cela, nous devons aussi veiller et non seulement sur le but, la motivation, le mobile, mais aussi veiller sur notre personne. Parce que nous pouvons devenir le but de notre ministère finalement.
Amen.
La motivation de notre ministère finalement.
Ouais.
Et notre personnalité rentrera au centre. Et je suis content que quelqu'un vienne de dire cela. Parce que quand nous prêchons, nous ne devons pas nous entendre à ce que les gens se disent « Ah, quel bon message !» ou « Quel bon prédicateur !» Mais ils doivent plutôt dire « Quel bon Christ !»« Quel
verbe !»
Et c'est ça qui donne l'espérance à ceux qui nous écoutent et même à nous-mêmes. Mais parfois, quand nous enseignons, bien nous sommes dans le ministère, chantant, priant, fait cela, on se focalise sur la coquille vide, même de la vraie motivation du croyant et de cet exercice-là dans l'Église.
Amen.
Donc, et c'est pourquoi l'apôtre a bien dit effectivement que cet exercice par rapport à Dieu, mais qui sont liés au corps, ne servent à rien. Mais c'est le contenu qui est la valeur. Sinon, nous serons en train d'être entraînés par des choses. J'étais en brousse la dernière fois, j'ai trouvé une coquille vide là qui courait plus vite que l'animal lui-même. Je me suis rapproché pour voir et j'ai constaté que ce sont des fourmis qui ont déjà vidé la coquille de son contenu et qui sont en train d'entraîner la coquille vide quelque part. Et apparemment, c'est comme si c'est la coquille qui courait, mais courait plus vite. Qu'il en faut parce qu'il a été vidé. Donc, on peut même persévérer dans beaucoup d'exercices dans l'Église sans percevoir le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et persévérer dans ce sens. Vous voyez? Donc, en réalité, nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas remplacer le but et la mobile. Nous devons aussi veiller sur l'enseignement pour que l'enseignement soit centré sur Christ et ainsi. Et tout le peuple de Dieu serait en train de travailler pour la même cause, le même but, la même motivation et avec la seule vraie espérance. Et c'est vraiment un détail qui est très important que l'apôtre Paul a essayé de souligner ici en parlant de l'exercice corporel, de la piété et de la persévérance nécessaire dans ces choses pour que nous soyons préservés et préserver ceux qui nous écoutent de toute déviation inutile. Il fait qu'on persévère, on croit persévérer, mais en réalité, on a déjà abandonné le fondement même de l'espérance du croyant.
C'est bien dit.
Et je rends présent grâce à Dieu.
En tout cas, très bien dit, mon frère.
C'est vrai. Persévérer en quoi? C'est comme la foi. Les gens disent, j'ai la foi, mais à quoi sert cette foi? Sur quoi c'est basé? Si ce n'est pas de Dieu, et si ce n'est pas à Christ, ce n'est pas la foi. Alors, en tout cas, merci bien.
Je voulais ajouter quelque chose.
Oui, oui.
Si le temps me permet.
Non, c'est bien.
Parce que vraiment, je remercie le Seigneur pour cette étude. Parce que souvent, effectivement, comme tu l'as bien souligné dans la cette étude, on est souvent tenté à être des prédicateurs de sujets. On aime souvent préparer des sermons du premier sujet et puis développer pour prêcher. Ça, c'est aussi bon. Mais je pense que la meilleure manière de faire, c'est ce qu'on fait là-bas, en prenant un livre et en prenant chapitre par chapitre et puis verset par verset et mot par mot. Je pense que ça, c'est bon. Et là, on constate réellement que à travers cette façon de faire, on comprend ce que l'apôtre Paul réellement développait, les instructions qu'il donnait à Timothée. Notamment ici, il y a des mots-clés, franchement, qui m'ont interpellé. Et quand il est dit ici, par exemple, à partir même du verset 9, que c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Voilà le mot, le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, mais surtout les croyants. Voilà quand il précise comme ça. Et encore, il va encore plus loin pour dire que voilà ce que tu dois enseigner. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Donc, Paul, il précise bien le mot. Et puis, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle. Parce qu'en général, souvent, les gens ont des excuses pour dire que je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. Bon. Ou bien, lui, elle est jeune, il n'a pas d'expérience. Pourquoi est-ce qu'il vient nous prêcher l'évangile, tout ça? Alors, Paul, il insiste et il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Soit un modèle pour les fidèles. Voilà, parce que le véritable prédicateur, il faut qu'il soit fidèle non seulement à Dieu, mais même envers lui-même et aussi envers ceux qui prêchent. Alors donc, Paul, il fait bien de souligner ça. Parce qu'il est fidèle en parole. Voilà les mots-clés qui interpellent vraiment. En parole, notre façon de parler, notre façon de se conduire, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Bon, je ne vais pas revenir, mais comme tu l'as déjà bien développé déjà. Et puis, le verset 13, effectivement, parce que la lecture de l'Évangile, c'est bien. Beaucoup lire la Bible et à l'exaltation et en enseignement. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments qui sont bien et qui me ramènent, parce que la semaine passée, je n'avais pas ma Bible, effectivement, mais je constate aussi que quand je viens arrière, Paul, il a tout dit dedans, parce que on voit aujourd'hui dans la religion, il y a des gens qui nous disent de s'abstenir de manger de tels aliments. Moi, je me rappelle bien quand nous étions au Christianisme Céleste à l'époque, on nous disait de ne pas manger la viande de porc. Voilà. Donc, l'argumentaire qui était développé n'est pas convaincant. Il disait que oui, parce que le Seigneur Jésus a délivré un homme qui était malade et qu'il a mis dans les pourceaux, et le pourceau est parti dans la mer. Donc voilà l'élément qui fait qu'il ne faut pas manger de la viande de porc, que c'est une viande qui n'est pas bien, qu'elle est sûre. Or, quand on lit dans le verset 3, il dit, Paul insiste, il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Voilà, action de grâce. Alors, donc, je me rappelle maintenant, quand on réfléchit bien, quand on dit de ne pas manger certains aliments, il y a un problème. Donc, c'est tous ces éléments-là que l'apôtre Paul, il a tout souligné pour donner ces instructions-là à Timothée, et qui doit aussi véritablement, pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, et qui voulons manger nous autres, nous devons suivre aussi ces recommandations. Quand il le dit ici au verset 15, il dit, applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, avec persévérance, comme l'a dit tout à l'heure Aurélien. Voilà les éléments qui m'ont interpellé et que je voulais partager avec vous, qui sont très, 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 très révélateurs dans ce passage-là. Qui est très bien, parce que quand tu es prédicateur de l'Évangile, il faut que toi-même aussi, tu veilles sur toi-même, mais en même temps, ta fidélité envers le Seigneur et envers ceux à qui tu prêches, et que tu dois être fidèle avec la véritable doctrine de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et que ça soit une véritable persévérance. Voilà ce que je vais ajouter.
Voilà. Merci frère, c'est très bien dit. Et on voit clairement la distinction. Quand Dieu donne des yeux pour voir, ce n'est pas difficile à voir ces choses. Mais quand le Seigneur laisse les hommes dans leur aveuglement, ils continuent à faire ces pratiques qui sont décrites ici comme des exercices corporels. Mais en fin de compte, ça ne profite que pour la chair. Et en ce qui concerne l'Évangile, la manière d'adorer, je dois dire que vous n'aurez pas beaucoup de gens intéressés. Ils vont venir s'asseoir, pour eux, ils vont dire, mais ça c'est quel genre de culte ça? Les gens ne bougent pas, il n'y a pas de mouvement. Mais ce sont des boucs qui cherchent de telles choses. Les choses charnelles, c'est ce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont de la chair. Mais spirituellement, c'est comme tu es malade. Tu ne veux pas beaucoup de bruit autour de toi. Ou bien tu es affamé. Tu veux t'asseoir tranquillement et manger. C'est comme ça que je viens au culte. Je suis dans le besoin en tant que malade, spirituellement, affamé. Je passe ma vie dans le monde, dans la semaine. J'ai besoin de venir me retirer, s'asseoir tranquillement et écouter. Voilà le mot-clé. Parce que quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, écouter l'exhortation, écouter l'enseignement. Alors, ça, c'est notre plus grand besoin, c'est d'entendre la parole. Tu sais, vous savez, les jours que je ne peux pas être ici, je ne suis pas en train de prêcher. Si je voyage et je demande quelques hommes dans notre assemblée de me remplacer, de prêcher. Au départ, ils étaient vraiment gênés parce qu'ils disent, mais on ne peut pas prêcher comme toi, donc les gens ne vont pas vouloir venir nous écouter. Et je disais simplement, je ne demande pas à ce que vous préparez des messages ou des sermons comme je le fais chaque semaine. Ça, c'est un don que le Seigneur m'a donné. Mais tout ce que je veux, c'est que vous dirigez le culte de la même manière. Vous vous levez et vous ouvrez la Bible et vous faites la lecture. Et si à travers la lecture, le Seigneur vous donne quelques pensées, quelques petits commentaires, alors vous allez mettre l'accent sur certains points en lisant. Faites la lecture, appliquez-vous à la lecture. Et lorsque vous aurez fini, priez et demandez au Seigneur de bénir la lecture. Et puis, faites une chanson, et puis le deuxième maintenant se lève, et vous faites la même chose que moi. Seulement, faites la lecture et quelques petits commentaires. Et souvent, quand je suis en voyage, j'ai trois hommes dans notre assemblée qui dirigent normalement, et quand je ne suis pas là, je leur dis simplement, faites la lecture. Il y a un homme, la dernière fois, il m'a dit, bon, je vais faire comme dans le premier siècle, parce que ces épîtres, vous savez, étaient envoyées pour être lues dans les assemblées. Alors il m'a dit, je vais lire toute l'épître d'Éphésiens pour mon message. Simplement faire la lecture. J'ai dit, bon, ça c'est une bonne chose. Mais c'était un peu drôle. Je dis drôle, mais le Seigneur a dirigé de cette manière. En lisant chapitre 1 d'Éphésiens, qui est un passage très précieux pour nous, il n'a pas pu même finir le chapitre, parce qu'à travers sa lecture, le Seigneur lui donnait une pensée, alors il s'arrêtait pour faire un petit commentaire, et puis il continue la lecture, et à la fin, il n'a même pas pu finir le premier chapitre. Alors, le Seigneur s'est servi de lui, pour être un prédicateur ce jour-là sans qu'il ne le sache. Et j'ai remercié le Seigneur qu'il a dirigé de cette manière. Alors toujours, la parole est primordiale en tout ce que nous faisons. C'est ça que nous voulons que les gens entendent, la parole de Dieu. Je dois couper là. Il y a les frères de Malawi qui m'attendent, mais je remercie le Seigneur pour cet entretien, ces échanges, et je prie pour chacun de vous que le Seigneur se sert de vous dans les lieux où vous a, il vous a placé. Et s'il n'y a pas d'autres qui croient à cet évangile, je peux dire que le Seigneur vous a placé là pour être témoin de sa gloire.
Ok, mes frères, passez une bonne semaine.